tous et bienvenue dans notre émission Heureusement en France. Vous êtes avec nous pendant une heure sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou même peut-être sur notre site web campuslille.com. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tout le monde.
Nous allons donc parcourir ensemble quelques actualités geek, le tout parsemé de musique, puisque nous avons préparé un petit challenge back to back que nous avions plagié d'une autre émission. Allez, je vous propose tout de suite d'ouvrir, bien sûr, avec un petit agenda qui vous permettra de découvrir quelques événements de la région. Et on va se diriger pas très loin d'ici, hein, puisqu'on va partir au stade de Villeneuve-d'Ascq.
C'est à 5 minutes à pied, le stade Pierre-Mauroy.
Puisqu'il va y avoir alors un événement, une convention qui va réunir donc, notamment des fans de jeux vidéo. C'est le Temple Hermès qui va lancer cette édition. Ici, on va avoir de nombreux concours, de nombreux défis.
Ah, c'est vraiment une compétition. C'est ouvert au public, hein. On peut prendre des billets pour visiter en tant que spectateur, mais c'est vraiment destiné à la compétition. C'est du e-sport dans toute sa splendeur, avec du Smash Bros. Il y aura plus de 1000 compétiteurs sur Super Smash Bros. Il y aura du FIFA 21, FIFA Final 8, voilà. Il y a plein de jeux auxquels je ne connais même pas. C'est vraiment de la pure compétition, des gens qui vont venir alors du monde entier, je ne sais pas, mais en tout cas des quatre coins d'Europe pour participer.
C'est ça. Alors, on parle de plus de 1000 compétiteurs ici. Bon, je pense qu'il y en aura beaucoup pour les jeux Mario et également FIFA, hein, qui réunit quand même beaucoup de gens qui peuvent s'entraîner en ligne.
Il y a peut-être encore des places pour s'inscrire en tant que compétiteur. Hein. Si vous pensez avoir le niveau, je pourrais, parce qu'il y aura des équipes limite professionnelles qui seront là.
Hein. Donc, peut-être de vrais commentateurs. Ouais.
Hein. Donc ça sera les 4 et 5 septembre, donc ici, pas loin de nos studios, hein, au stade Pierre-Mauroy. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site qui s'appelle smash.gg, par exemple, au hasard. Vous cherchez Temple Hermès édition 2021 et vous aurez toutes les formations. Il y a encore des places, enfin, en fait c'est dégressif depuis le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Plus vous commandiez tôt vos places, moins c'est cher, c'est ce qui fait souvent pour ce genre de festival. Donc là il reste encore des places pour les spectateurs et même peut-être pour les participants. On suivra ce que ça fait.
Alors pour l'instant, on parle bien sûr de l'édition ici de FIFA 2021, à savoir, hein, pour les grands fans, Pierre Ménès, qui depuis plusieurs années fait les voix, hein, du jeu vidéo.
Qui faisait les voix.
Voilà. A été remercié, hein, suite aux dernières affaires, hein, qui ont pu. Oh, c'était quand même marrant d'avoir un duo, ce qui était assez rare dans les autres pays pour les jeux de foot. Ici, il y avait un petit duo, donc ça donnait quelques phrases assez.
Est-ce qu'ils vont faire une édition spéciale où il fera des remarques sexistes, homophobes et compagnie? Je ne sais pas, ça pourrait être original.
Maintenant, il faut réécouter les anciennes versions.
J'aimerais bien qu'il le fasse pour un jeu de football de sport féminin, avec les commentaires de Pierre Ménès.
Ben, je pense que c'était déjà présent, hein, puisque maintenant vous avez la possibilité donc de choisir quel type de sport vous voulez effectuer. Enfin, ça reste le même football, hein, on est bien d'accord, mais quels sont les joueurs qui seront sur le terrain, hein, ou les joueuses? Alors, un autre festival, alors cette fois-ci, il va falloir prendre le train ou la voiture pour aller un peu plus loin. Il va falloir partir, si vous voulez participer à ce Geek Festival, c'est à Dunkerque, le 25 et le 26 septembre au Palais des Congrès. Alors ici, un salon geek habituel.
Oui, c'est ça, avec du cosplay, du manga, des jeux, sans doute des jeux vidéo, etc. Alors le programme n'est pas encore, il n'y a pas encore les détails. On a juste quelques invités qui seront là, donc il y aura le fameux YouTuber Sifano.
Qu'on connaît tous.
Je ne connais pas du tout. Il a près de 3 millions, alors 2,9 millions d'abonnés, peut-être que depuis le temps il est à 3 millions,
je ne connais pas. Il avait été extrêmement connu à l'époque de Minecraft et il y reste dans la communauté de Minecraft, vu qu'il a fait récemment, je pourrais plus dire, je crois qu'à l'époque c'était la Cité des Éléments, là il a fait la Cité des Nations, un truc où ça regroupait plusieurs équipes sur Minecraft avec des tests, des events particuliers, et il continue à fonctionner, plus forcément en tant que YouTuber actif, peut-être pas. D'après ce que je me souviens, mais plus dans le
dans l'organisation
création de l'événementiel.
Il est passé derrière la caméra.
Il est passé derrière les caméras de YouTubeurs basiques et maintenant il met pratiquement un an pour faire, comme je disais, la Cité des Nations. Il a mis un an avec d'autres personnes à la créer et la mettre en place et c'est passé sur YouTube il n'y a pas longtemps.
C'est pas
et sur Twitch
moins,
aussi.
Il apprend d'autres métiers, il pense à son avenir parce que je vois tous les YouTubeurs que je vois qui ont du succès. Il faut peut-être leur dire dans 4-5 ans, les gars, il faut préparer à apprendre d'autres métiers.
Alors, est-ce qu'on a vraiment encore des YouTubeurs? Est-ce que maintenant tout le monde n'est pas parti sur Twitch?
Il y a
la rémunération est quand même assez différente.
Bah, t'as les deux. T'as les deux dans le sens où tant que t'as pas, alors je sais plus si c'est parce que t'es partenaire Twitch ou si tu ne l'es pas, tu as une clause de confidentialité avec Twitch. Tu ne peux pas, enfin, le confidentialité. Tu ne peux pas aller autre part que Twitch pour mettre tes vidéos en ligne. Par contre, tu peux après, suivant le contrat que tu as, mettre très bien tes rediffusions de live Twitch sur sur YouTube sans aucun problème. Tout dépend du contrat que tu as.
On invitera des gens compétents qui savent de parler de Twitch à l'occasion.
C'est vrai. C'est sur le papier.
Ouais, mais il faut se lever le dimanche matin, c'est dur.
Il viendra l'après-midi et il coupera sa petite sieste. Ça va. On parle bien sûr de l'émission Twitch Café le matin, le dimanche matin, c'est 10h, si je ne me trompe pas, sur Radio Campus.
Parmi les autres invités, il y a Pierre Tessier qui est un comédien doublage. Il a fait des doublages de jeux vidéo, style World of Warcraft, quand même, de ce genre de choses.
Le Roi Lich.
Voilà. Je joue au jeu en anglais, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Stéphane Margot, qui est comédien, lui, qui a fait partie de. Qui a joué notamment dans Kaamelott.
Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir le film Kaamelott ?
Non, merci.
Non.
Au début, j'étais tenté, mais là, bon, non, j'ai perdu l'intérêt.
Ça va.
Moi, ça m'intéressait, donc je me suis dit, je vais commencer à regarder la série que je ne connais pas.
Ah oui, bah oui, carrément. Mm-hmm.
Et en fait, on m'a dit, mais non, t'as pas besoin, Alexandre Astier. Invite les gens à aller voir le film et ensuite découvrir la série.
Parce que moi, justement, je connais la série, j'aime bien, donc j'ai pas du tout envie d'aller voir le film. Parce que pour moi, Kaamelott, c'est un truc que tu te mets devant ta télé, hop, comme par hasard, il y a un épisode de Kaamelott qui commence ou qui est déjà commencé. Tu dis, bon, je vais regarder 5 minutes, et puis 5 heures plus tard, t'es toujours là à tous les regarder, alors que tu les connais par cœur. Mais un film, je me vois mal aller me caler pendant 2 heures dans un film sans.
C'est assez difficile.
C'est pas du tout la même expérience.
De regarder la série comme moi je l'ai fait, donc j'ai été bien sûr sur des plateformes légales pour la regarder.
Ils passent tous les jours gratuitement.
Et
sur
le problème, c'est que comme c'est des mini-épisodes, à chaque fois, t'as la coupure, t'as le début et la fin, c'est la corne de brume qui fait. Une fois, c'est sympa, mais au bout du 40e épisode.
Après, dans les dernières saisons, c'est plus des épisodes de 5 minutes, hein. C'est des mini-séries télé. C'est des vrais épisodes qui durent 50 minutes chacun.
On sent qu'il a voulu évoluer le format et il n'y a vraiment pas de surprise à le voir adapter à un film.
On parlait de Twitch Café, ils ont fait une émission spéciale il y a 2-3 semaines, un dimanche matin, où ils avaient invité une youtubeuse spécialisée autour de Kaamelott et ils ont parlé de Kaamelott pendant une heure, donc je crois que c'était il y a 2-3 semaines. Il faut aller chercher dans les podcasts.
Je suis sûr que tu ne vas pas le voir parce qu'il y a Sting dedans.
En plus, il y a Sting. Alors,
mais pour les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé et qui ont été le voir et qui sont pourtant des fans de la série, ces personnes-là veulent le revoir et ils ont été vraiment appréciés une fois.
Il y a un type, un Français, qui veut battre le record du monde de visionnage d'un film. Il veut le voir 200 fois. Donc il le voit 4-5 fois par jour.
Eh bien, il est moins con que ceux qui ont été voir le Titanic, parce que le Titanic durait quand même un peu plus longtemps.
C'est pas faux. Ouais, autant voir un film très court, c'est vrai. Mais bon, il est con. Enfin, pour moi, je le place, mais enfin bref.
Mais je trouve qu'il y a un super engouement, et en tout cas, il est en train de casser les scores, sachant qu'on est dans une période où, pour aller au cinéma, c'est pas pratique. À moins que vous preniez la voiture pour aller en Belgique, ce qui est complètement différent.
Il cassait les scores jusqu'à ce que OSS 117 sorte.
C'est ça. les deux se partagent, tant mieux. C'est un peu dans... C'est le même public.
Ça permettra au bon film de se produire.
Allez, on va s'écouter un peu.
Ta dernière invitée, il y a aussi Adeline Chetaille, que je ne connais pas du tout, parce qu'elle fait aussi une comédienne française qui a fait la voix de la princesse Zelda dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais elle fait aussi la voix de Mei dans Overwatch. J'ai pas joué à Overwatch.
Bah oui, c'est celle qui jette de la glace.
Ah, ok.
Alors, on parle ici...
Une dédicace, si tu veux.
Alors, donc, pour un petit rappel, on parle ici du Dunkerque Geek Festival pour cette édition 2021 qui aura lieu le 25 septembre. Et comme
toutes les informations sur dunkerquegeekfestival.com, c'est bien fait.
Et comme tout Geek Festival qui se respecte, il y aura bien sûr une compétition de cosplay.
Ah oui.
C'est le plus important. Alors, si vous déguisez en Mei, vous pourrez avoir la voix du jeu qui vous suit. Ça, c'est énorme. Attention. Alors, on va s'écouter un peu de musique, et je l'ai un peu spoilé, puisque ce thème est le meilleur plagiat. Alors, il y a plein de chansons qui sont connues et qui, en fait, existaient plus ou moins déjà avant. Alors, des fois de façon très évidente, des fois un peu moins, c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
On ne parle pas de reprise, on parle bien de plagiat, c'est-à-dire les gens, ils ont soit volé, soit ils ont fait une reprise.
Qu'il y a eu une instance de tribunal et que ça a été acté comme plagiat.
Alors moi, j'ai pas vérifié que le tribunal ait été passé par là, mais en tout cas, j'ai vu des similitudes qui n'ont pas été notées dans le morceau.
Parce que ça
morceau.
Peut être un hommage. Et dans ces cas-là, l'artiste est plutôt courant.
Mais non, là, il y a eu une négociation, il y a eu beaucoup de points dans la gueule et tout. Hein, ouais.
Alors, Reynald, est-ce que tu veux ouvrir le bal ?
Allez, soyons fous.
Alors, toi, tu nous proposes en plus un groupe qui tourne encore.
Tout à fait. Alors, si je vous parle de Coldplay... groupe hyper connu.
Ah bah voilà, Dom est parti, c'est malin.
Ouais. Mais même toi aussi, t'es en train d'enlever le casque, salut.
J'aimais bien Coldplay de l'époque, moi.
Alors, de l'album Milo Xyloto, qui était sorti en 2011, il y avait une chanson qui a fortement fonctionné, j'allais dire marché, mais qui a eu un succès fou à l'époque, qui avait été nominée pour les Grammys et compagnie, enfin vraiment très très bien fonctionné.
Qui a dû même passer un Super Bowl, si je ne me trompe pas.
Peut-être. Et cette chanson s'appelle « Every Teardrop is a Waterfall ».
Donc chaque larme est une cascade ?
Une fontaine, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc si tu peux passer un petit morceau.
Ah donc c'est celle-là qu'on va écouter partiellement.
On va écouter celle-là partiellement.
Oui, c'est normal, on va pas faire honneur à ces voleurs.
Voilà, il faut bien écouter l'intro.
On n'écoute pas souvent du Coldplay Dernière Génération sur Radio Campus.
Un morceau extrêmement connu, en effet, qui a dû leur rapporter plein d'argent.
Ils ont plus besoin d'argent que le plein.
C'est pas une raison pour voler.
Et là, effectivement...
On parle pas de voler de ses propres ailes.
Normalement, vous avez peut-être reconnu un morceau de Claude François qui, lui, avait été pas plagié de l'artiste principal, qui avait été vraiment demandé à
c'était
l'époque.
Une reprise, oui.
C'était une vraie reprise. Et... Par contre, si tu peux mettre celle de Peter Allen, qui est I Go to Rio, qui avait sorti ça en 1976 sur l'album Thoughts by Expert.
Oui, c'est clair. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life, and I am free at last. What a blast! Whoa, when my baby smiles at me, I feel like Tarzan of the jungle, there on the hot sand. And in a bungalow, our monkeys play above her. We'll make love. Now I'm not the type to let vibrations trigger my imagination easily. You know that's just not me. But I turn into a tiger every time I get beside the one I love.
Allen avec un Go to Rio. Vous êtes sur les ondes de Radio Campus 106,6.
Et pour rappel, effectivement, il n'y a pas forcément une décision de justice comparée à Coldplay, mais il y a eu tellement de tractations et de mon avis, remboursement financier bien sous-jacent. Et ça a été fini par un consensus où il n'y a pas eu de plainte qui a été mise à bout. Mais par contre, les auteurs de Ago Turio, donc Peter Allen et sûrement les personnes qui l'ont aidé à faire ce morceau, ont été crédités sur l'album et par rapport à la chanson Every Day is a Waterfall.
Voilà, donc peut-être un peu moins d'argent. Mais...
Et surtout Peter Allen gagnera peut-être plus.
Allez, on va partir dans le jeu vidéo, puisqu'on a pu tester, grâce à Dominique qui était nous chercher bravement des clés de test, nous avons testé Back 4 Blood. Alors, Back et avec un 4 et Blood. Un peu le successeur de Left 4 Dead. Alors ici, on parle d'un FPS, donc un jeu de shooter à la première personne.
Avec des zombies.
Avec...
Enfin, est-ce que c'est des zombies? On ne sait pas. Ah oui, Left 4 Dead 1 et 2, c'était un jeu qui est sorti dans les années 2000, non, je ne sais même plus de quand ça date, qui avait eu un succès fou. C'était des jeux très simples, oui, où il fallait tuer des zombies avec des armes, et on avait des personnages. Mais c'était vraiment très simple parce qu'on pouvait jouer à 4 sur console aussi, je crois, sur PC, avec des amis à distance ou sur la même machine. Enfin, en LAN, ça marchait à fond parce que c'était vraiment dynamique, c'était très sympa, il y avait des missions, c'était vraiment très engageant, un pur jeu coop. On peut jouer aussi en versus, ça a eu son succès aussi. Et le Back 4 Blood qui revient bien plus tard, c'est la même équipe, c'est les créateurs originaux de Left 4 Dead qui sont repartis avec leur bébé sous les bras, ils disent non, on va faire notre propre jeu parce qu'ils n'étaient pas contents, j'imagine, des accords qu'ils avaient avec l'éditeur original. Et voilà, ils ont remis ils se sont mis au travail, ils ont fait leur suite officielle. Ils n'ont pas pu l'appeler Left 4 Blood, sinon, c'est Left 4 Dead 3, mais ils n'ont pas le droit de l'appeler comme ça.
Le chiffre 4 est un peu au mieux et vous l'envoie en pleine figure.
Ça ressemble un peu, la police de caractère ressemble un peu, les couleurs, les personnages. Bon, les armes, tu peux pas faire grand chose, hein. C'est copié sur des armes originales, donc tu peux pas. Et le gameplay, lui aussi, hein. T'as des personnages qui. Alors, il y a des zombies partout. Et tu commences avec ton personnage et ses copains qui sont dans une cache, à un endroit. Ils ont des armes et ils doivent aller à un autre endroit ou récupérer quelqu'un, faire des missions. Et c'est parti, et tu enchaînes les niveaux. Et il y a des zombies un peu partout, des zombies. Il y a des zombies lents, il y a des gros zombies, il y a des zombies qui te sautent dessus. Puis de temps en temps, il y a une horde qui se déclenche, c'est-à-dire tu as des vagues de zombies qui t'attaquent, et puis faut survivre et passer au point suivant, etc. Jusqu'au prochain save point, à la salle cachée, on va dire. La salle où tu seras à l'abri pour te soigner, reprendre des armes, etc., et repartir. Et tu enchaînes les parties, et voilà.
Alors, votre premier ressenti par rapport à ce premier test, hein, alors, savoir que le jeu sortira aux alentours d'octobre, octobre-novembre, et il est prévu quand même depuis 2019. Alors, cette bêta est apparue surtout pour rassurer certains joueurs qui étaient inquiets suite à certains bugs, à certaines rumeurs, et on leur a dit regardez, on a déjà une pré-démo jouable, ça vous donnera peut-être envie de précommander le jeu et de payer la somme forte, hein, puisqu'ici on part sur un jeu triple A à 60€.
Là on a eu affaire à une bêta. Vraiment une bêta, donc il pouvait avoir des bugs.
5 personnages sur les je ne sais pas combien débloquables.
Et on avait un acte complet, ce qui veut dire 8 missions à faire en boucle. Mais les 8 missions, c'est facile, une heure et demie de jeu.
Ça dépend, les 8, oui. C'est après, selon le niveau que tu choisis. Mais le gameplay, le même pratiquement, c'est ça. Hein, choisis un peu. Tu es rejoint par des gens au hasard, ou s'il y a personne qui te rejoint, c'est des bots qui vont contrôler les personnages. Quand t'as un personnage qui tombe à terre, tu vas l'aider à se relever. Tu tues, t'as plein d'armes différentes.
Alors, un gameplay peut-être qui sera identique, mais moi, pour avoir testé Left 4 Dead et pour passer ensuite à Back 4 Blood, j'ai quand même un sentiment, une ambiance un peu moins angoissante qui est présente. J'ai plus l'impression d'être dans un jeu de bourrin pour dire ça simplement.
C'est vrai que la difficulté était un peu montée sur la bêta.
Dans Left 4 Dead, il y avait vraiment un travail d'équipe, à savoir comment est-ce qu'on s'organise, ou par où est-ce qu'on passe, et les monstres arrivent, on essaie de se barricader
là,
plus ou moins.
Les quelques parties que je l'ai fait avec des inconnus, donc je parlais pas, donc je me débrouillais dans mon coin. Quoi.
Voilà, et bon, j'aurais été tout seul, ou accompagné de bots ou de joueurs, ça n'aurait rien changé, et j'avais plus l'impression de jouer à un Doom ou à un Quake, plutôt qu'un jeu de survival ici, puisque généralement quand il y a des zombies, vous essayez de survivre et non pas de foncer dans le tas.
Bah, c'est le souci des bêtas en ligne, c'est que tu n'as pas accès à ton groupe de potes avec qui tu peux jouer, t'entendre, être en vocal sur Discord et autres.
C'est typiquement le genre de jeu que tu joues avec des...
Sur les différentes parties que j'ai faites sur cette bêta, j'ai eu une personne qui avait mis son micro en on pour nous dire un truc que personne n'a compris, parce que c'est un micro pourri, mais qu'il
c'est
a...
mal.
Voilà. J'ai eu la même chose, sauf que le gars savait pas que son micro, donc j'entendais tout ce qui se passait.
Voilà.
Dans
et après, il a oublié de couper.
Il y a quelqu'un derrière moi. Ah non, non, c'est quelqu'un qui avait rejoint ma partie, je m'en étais pas aperçu, et j'entendais tout ce qui se passait dans la maison.
Ou alors, t'as la personne qui court tout droit, qui va tout droit, et qui n'en a rien à péter de ses coéquipiers, et il va toujours tout droit, et il fait tout.
Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous étiez avec la compagnie de vos joueurs favoris, vous avez l'habitude de jouer ensemble, est-ce que vous auriez pour autant élaboré une stratégie dans Back 4 Blood?
Oui, parce que...
Il y a certaines missions, t'es obligé. Ouais.
Oui, enfin, certains moments quand tu montes le niveau. Quand tu joues tranquillement, tu dis on va jouer 10 minutes, on va juste faire défouler ou discuter, on prend quelque chose, c'est pas un problème. Mais dès que tu veux aller un peu plus profond dans le jeu, c'est-à-dire débloquer des achievements ou faire des succès, etc. Ou, comme il y a un système de progression, ça c'est différent par rapport au premier Left 4 Dead, on va dire comme ça. Oui, avec tes amis, tu peux te concentrer, jouer en mode compétitif et essayer de débloquer, faire des succès. Le niveau que t'as battu en 3 minutes, eh ben, tu peux essayer de le faire en 2 minutes 30 ou en 2 minutes, ou des fois sans déclencher, sans tuer un seul zombie. Je crois qu'il y a des succès comme ça. Certaines missions, il y a des petits objectifs à chaque fois, ou tu gagnes t'as des petits bonus si aucun joueur n'est tombé à terre pendant plus de 3 fois. Il y a plein de petits trucs comme ça.
Ouais,
donc
il faut
te concentrer. Ouais.
À chaque début de mission, il y a la carte, on va dire la carte de campagne, qui te dit voilà, si tu fais ça pendant cette mission-là, un petit défi, tu gagneras de la monnaie supplémentaire en fin de mission. Mm-hmm. La monnaie, tu la récupères pendant ta mission, il faut que tu la trouves, c'est comme n'importe quel autre objet, mais tu auras ce petit bonus-là en fin de partie si jamais tu fais ça. Ça peut être, comme dit Dom, que les héros sont appelés des nettoyeurs, que les nettoyeurs ne soient pas blessés, ou que tous survivent, ou enfin, des trucs comme ça. Et tu as aussi un système de cartes après où chaque joueur va choisir une carte pour la mettre qui va la prendre de son deck et qui va être par exemple gagner plus 10% de munitions ou avoir 10% de vie en
plus. Recharger plus vite.
Ou recharger plus vite. Ou alors que quand tu fais une attaque, tu tues un zombie au corps à corps, tu gagnes 2 points de vie supplémentaires. Il y a plein de trucs. Et ces cartes-là, elles sont obtenues avec des points de ravitaillement, et ces points de ravitaillement, tu les obtiens quand tu finis une mission.
C'est ça. Par rapport aux autres Left 4 Dead, il y a vraiment un niveau, presque un niveau d'expérience où tu vas progresser, tu vas gagner, oui, de la monnaie, de l'expérience, que tu vas pouvoir améliorer, peut-être même débloquer des personnages aussi, je pense.
Ouais.
Et il y aura peut-être aussi moyen de payer avec de vrai argent pour débloquer des packs, je ne sais pas trop.
Et comme ton paquet de cartes, quand tu commences une mission, donc un acte qui était 8 missions à faire à la suite, tu peux aller jusqu'à 15 cartes dans ton paquet. Mais à chaque début de mission, on t'en propose que 5 aléatoirement. Et donc, c'est à toi de bien gérer ton paquet de cartes pour que tu aies les bonnes cartes dès le début. Donc, pas forcément avoir 15 cartes tout de suite, mais tu risques d'avoir une redondance ou des fois arriver une mission où tu n'auras pas de cartes à piocher.
Ça augmente la longévité du jeu parce qu'effectivement, si tu joues juste comme ça en casual avec tes amis, les cartes limites, tu te prends au hasard, c'est pas grave.
Ouais.
Mais quand tu veux battre des records ou faire un mode compétitif, j'imagine qu'il y aura un mode compétitif parce qu'il y a aussi un mode duel versus dans ce à ce moment-là, faudra vraiment que tu te concentres, il y a moyen de faire du e-sport. Quoi.
Donc, sur le mode duel, vous allez être un peu comme dans les jeux à la Fortnite, la carte va se réduire peu à peu, vous forçant à affronter les personnes un combat final. Ça peut être sympathique, à mon avis, c'est ce qui va donner du piment justement aux joueurs.
C'est vrai que les nostalgiques de Left 4 Dead attendaient Left 4 Dead 3, c'est un petit peu ça, on verra.
Mais par contre, par rapport aux
euros quand même.
Ouais, par contre, les Left 4 Dead, c'était systématique, que ce soit sur le premier ou le deuxième, tu avais les zombies communs, que ce soit en horde ou en vadrouillant dans le niveau, et après, tu avais un zombie spécial qui apparaissait dès que tu le tuais, tu en avais un autre qui apparaissait un peu plus loin, et ça tournait comme ça. Là, dans ce jeu-là, t'en as des fois 2 voire 3 en même temps et ça boucle.
À part les plus gros, je t'avoue, je faisais pas la différence entre les créatures.
Les gros sont bien parce qu'ils ont des animations qui viennent cartonner des personnages qui sont assez sympathiques.
Et ils sont un peu retirés des opus précédents, mais t'en as un petit nouveau qui est assez vicieux, qui est, comme tu dis, en plus d'homme, il est pas forcément bien repérable entre d'autres zombies. C'est juste un zombie qui, quand tu le touches au flingue ou au corps à corps, il va tellement crier, il va alerter une horde. Donc toi, tu vas penser avoir tiré sur un zombie et lui faire une tête. Ben non, en fin de compte, tu as tiré sur un screamer ou je ne sais pas quoi, et ça va attirer des zombies supplémentaires. Si tu joues en facile, donc en survivant de base, ça va, tu vas utiliser quelques munitions, mais tu auras tué une horde. Par contre, quand tu joues en vétéran, qui est la difficulté qui est juste au-dessus, chaque balle compte. En tout cas, pour la bêta, c'était chaque balle compte. Tu devais te faire des têtes à chaque fois, sinon tu te retrouvais en milieu de mission, tu n'avais plus de balles. Tu étais obligé de changer d'arme pour récupérer quelques munitions.
Ou la machette.
Voilà. Et, et là, tout est l'intérêt d'avoir de bonnes cartes et aussi de bons coéquipiers. Si tu as un coéquipier qui fout la merde en mode vétéran, tu finis pas la mission.
Moi, quelque chose qui m'a un peu déçu, c'est justement, comme tu parles, il faut mettre des têtes. Bon, puisque les dégâts sont augmentés selon où tu envoies, je pense, tes tirs. Mais par contre, tu n'as pas de vue physique sur vraiment où tu as tiré. J'aurais bien aimé avoir des bras qui volent. Ici, on parle de zombies ou certains zombies. Je pense que les zombies, tu peux leur tirer dans la jambe et le zombie, à un moment, va succomber. Alors que, normalement, si tu lui enlèves ses deux jambes, il continue.
Tu prends le jeu Dead Island qui commence à dater aussi de près de 10 ans, qui a cette gestion. Tu tires une balle dans la jambe, le zombie va tomber pour que tu puisses l'achever à coup de pied.
Et moi, ça me fait halluciner qu'en 2021, on a encore des jeux comme ça où on n'est pas capable de gérer cette partie-là. Je trouve que c'est dommage. Quitte à faire un jeu gore et qui va être interdit au moins de 18, vas-y à fond. Quoi.
Après, tu récupères la notoriété de Left 4 Dead et c'était comme ça.
C'est ça.
Ils te ramenaient 15 zombies à la
ils
fois.
Ils ont fait une belle opération là où tous les youtubeurs, les twitchers, ils jouaient pendant un moment.
On verra. Moi, j'ai la nostalgie de ces jeux comme Soldier of Fortune. C'est vieux comme le monde. Et lui avait une certaine localisation qui était super bien faite.
Oui, mais je te rappelle, parce que là, tu pouvais jouer, moi je jouais sur PC, tu pouvais jouer dans ton équipe avec des joueurs sur console, parce que le jeu sera disponible sur Xbox,
les crossplay.
Le fameux crossplay. Donc voilà. Alors peut-être que pour ces joueurs-là, on a facilité un peu, je ne sais pas.
Surtout que normalement, tu as l'auto-aim. Donc quand tu joues à la manette, tu as la visée automatique. Et donc est-ce vraiment nécessaire?
Mais bon, 60 euros quand même. Je passe.
Dominique, un peu de musique. Quel est ton choix pour ce back-to-back sur le plagiat?
Eh bien, en 1964, un artiste français reconnu à travers le monde, Serge Gainsbourg, a sorti un album qui s'appelait Percussion, avec un S, qu'il a été enregistré à New York, comme par hasard. Et on s'est aperçu quelques années plus tard, dis donc, les morceaux, les 3-4 pistes là, voire la moitié du disque, ça nous rappelle plein d'autres artistes. Et notamment, son morceau qui s'appelle New York USA, qui est très connu. Tu peux passer un bout si tu veux.
J'ai vu New York USA.
Bien, justement, à New York, en 1959, il y a un artiste qui s'appelle, attention, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Babatunde Olatunji, qui est allé enregistrer, qui venait du Nigeria, si je n'ai pas de bêtises, allé enregistrer un album complet de musique, de percussions, etc. Et il y a trois de ces morceaux qui sont retrouvés un petit peu comme par hasard sur l'album de Serge Gainsbourg, au milieu d'autres artistes africains qui avaient été honteusement pompés. Alors, la maison de disques a porté plainte, bon, il n'y a pas eu d'arrangement pour finir, mais au moins... Il y a eu des juges qui sont passés par là.
Donc tu veux qu'on s'écoute Aki Wowo?
Oui, tant qu'à faire, Aki Wowo, le morceau de Babatunde Olatunji. On va écouter l'original, tant qu'à faire. Ça ressemble quand même. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. C'était Baba Tunde Ola Tunji avec la chanson Akiwowo, une chanson qui a été plagiée par Serge Gainsbourg pour sa chanson New York. C'est ça, Dominique ?
New York, oui, ça, ouais, c'est ça.
Allez, on va continuer. On a parlé un peu de jeux vidéo. Il y en a encore quelques-uns. Alors, cette fois-ci, des jeux qu'on n'a pas pu encore tester en bêta, mais qui ont l'air très prometteurs.
Des jeux à suivre. Sûrement moins chers que... Pas 60 euros, en tout cas.
Ou en tout cas, qui vont peut-être valoir leurs 60 euros. Ici, c'est quelque chose d'assez innovant et c'est très rare de dire ça dans le monde du jeu vidéo en ce moment. C'est Dice Legacy, un système qui va vous proposer donc un city builder, alors jusque-là très commun, un peu comme Banished,
Edge of Empires. Tu arrives sur une planète et t'es tout seul, t'as 2-3 ouvriers, tu construis des outils, des maisons, etc. T'as des champs pour avoir à manger, puis tu développes ton petit univers comme ça.
Mais ici, comme le nom l'indique, vous allez jouer avec des dés.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'ouvriers, effectivement, et c'est des dés à 6 faces, bien classiques, colorés, qu'on va devoir utiliser. Donc, ça remplace un peu les ouvriers. Au début, on en a 6 de la même couleur, c'est juste des paysans, les dés de base, et on les lance. Et sur ces dés, il y a des actions. Alors, il y a des dés récoltés, attaquer, fabriquer, ouais. Construire, etc. Et on place ces dés sur des emplacements qui sont déjà visibles sur le paysage. Et par exemple, s'il y a une maison, un plan de maison qui n'est pas encore construite, et ben on prend un ou deux dés de paysans qui ont le dé construire, à la face, et on les met dessus. Et c'est parti, ils vont travailler un certain temps. Et attaquer au début, ça ne se fait pas, puis il n'y a pas encore d'ennemis, etc., etc. Les dés qu'on n'utilise pas ou les faces ne nous plaisent pas, on peut les relancer. Et ça va consommer une charge. Tous les dés ont un certain nombre de charges. Et quand on les a utilisés un certain nombre de fois, les dés sont plus bons. Donc il faut bien choisir. Et on a aussi la possibilité de... les dés, ils peuvent se reproduire entre eux. En gros, tu prends 2 dés, tu les mets dans une maison, ça fait un 3e dé. Ouais, cool. Un petit bébé. Tu peux en avoir jusqu'à 12. Mais tu peux aussi acheter des dés à un moment... Plus puissant, plus doué. Il y a 5 niveaux de dés, si j'ai pas de bêtises, ça fait 5 couleurs. Donc les dés suivants, c'est peut-être des artisans, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des artisans, donc ils sont un peu plus spécialisés, un peu plus puissants. Ils vont faire des actions plus complexes, construire des outils, des armes plus avancées. Tu as aussi des dés qui sont plus orientés pour la guerre, d'autres pour des marchands qui sont là pour te rapporter des ressources, etc. Et donc c'est à toi de faire évoluer. Et la particularité de ce monde, c'est pas un monde plat comme dans tous les jeux qu'on a vu jusque-là. Enfin, il est plat, mais il est circulaire, c'est-à-dire c'est un petit peu comme l'anneau monde, ce genre de monde.
C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un anneau.
Oui, c'est ça. Prenez un rouleau, je sais pas, un rouleau de scotch, etc. Vous de la surface, et vous êtes sur un côté.
C'est l'inverse en fait, de la théorie du complot, comme quoi ça. La Terre est plate.
Elle est plate, mais annelée, enfin, je sais pas comment dire. Elle est circulaire, mais pas ronde, enfin bref. Et vous vous déplacez, et c'est très joli en plus visuellement, quoi, sur les images que j'ai pu voir.
C'est
et,
très beau.
Et quand on avance, le monde défile comme l'anneau tournait, puis on marche dessus, quoi. Et au début, il y a du brouillard, on sait pas sur quoi on va tomber, on sait qu'on va tomber sur des ennemis, sur des terres. Et le but, j'imagine, c'est de conquérir toute la planète. On peut jouer à plusieurs, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas vu de vidéo de ce gameplay, mais on peut jouer à plusieurs en collaboratif, apparemment. Donc,
en plus, il y a déjà pas mal de tests qui ont été faits sur YouTube, donc ou peut-être à mon avis sur Twitch aussi, vous pouvez retrouver, oui. Si le jeu vous intéresse, pas mal de vidéos sur YouTube ou Twitch qui permettent de vous faire une meilleure idée.
On n'a pas encore le prix, mais il sera disponible. C'est Ravenscourt, l'éditeur, je ne connais pas. C'est prévu, la date de sortie est prévue le 9 septembre 2021.
C'est bientôt. Donc, voilà, Dice Legacy, et ça donne vraiment envie, surtout pour les fans de jeux vidéo qui aiment également jouer à des jeux de plateau.
Exactement. Et j'ai tout de suite pensé à un jeu de plateau, moi, forcément. J'ai cru que c'était un jeu de plateau à la base quand j'ai vu le truc.
C'est vrai, mais on garde quand même une mécanique jeu vidéo. On n'est pas comme certaines adaptations où on a quand même l'impression de jouer à un jeu de plateau sur PC.
Ça m'a fait penser à des jeux de plateau auxquels j'ai pu jouer, où on jouait avec des dés comme ça. Mais on se dirait bien, on a presque envie qu'il y ait aussi une adaptation en jeu de plateau. C'est tentant, quoi.
Je sens que quelqu'un va guetter Kickstarter dans pas longtemps.
Ouais, surtout que là, on voit les informations, par exemple, sur Steam pour le côté PC. Mais là, en vérifiant mes dires au cas où j'aurais dit une connerie ou une de plus, j'ai lancé YouTube pour lancer Dice Legacy. Et je vois qu'il y a Dice Legacy qu'il y a un trailer d'annoncé sur Nintendo Switch.
Mais, oui, c'est ça. Ouais. C'est prévu sur les deux plateformes.
Encore du cross-platform.
Mais c'est vrai qu'en plus, bah, plus je vois le jeu, plus je me dis, mais je vais jouer sur mon téléphone, quoi. Parce que tu prends le dé, tu mets ton doigt sur le dé, tu le fais glisser. C'est typiquement un jeu où tu le joues à la souris sur PC ou à la manette sur Switch. Mais c'est typiquement le jeu où quand j'ai envie de cliquer sur mon écran, de prendre le dé et à la limite de les lancer, de faire le geste, quoi. Mm-hmm. En VR, ça sera encore mieux.
Pourquoi pas, écoute, mais c'est sur PC.
Je veux une adaptation mobile ou sur tablette, quoi.
Un autre petit jeu que vous pouvez dès à présent précommander, qui sortira, lui, le 28 septembre, c'est Lemnis Gate. Alors, c'est toi, Dominique, qui a découvert ça sur, sur Steam, hein, comme d'habitude, où, à mon avis, il sera disponible également sur d'autres plateformes.
On imagine. Donc là, on a déjà le prix, ça va. Alors, encore, ce moment, il est à moins 20%, donc ça fait moins de 15 euros. Il sortira, c'est ça, le 28 septembre. Alors, Lemnis Gate, c'est un jeu particulier, ça se joue à deux, enfin, on peut jouer à deux contre deux aussi. Et c'est un jeu vidéo style FPS, un jeu d'action, d'infiltration, etc. Sauf que c'est à tour de rôle. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller chercher, en gros, pour simplifier, les deux joueurs apparaissent chacun d'un côté d'une carte, et le but, c'est d'aller chercher un drapeau ou un objet qui est au milieu et de le ramener dans son camp. Donc le premier joueur va faire ça, il va prendre son premier personnage, il va jouer, il a des armes, mais au début il n'y a personne en face, il va aller chercher le drapeau éventuellement, et puis le ramener dans son camp, enfin commencer à le ramener dans son camp, puisque au bout d'un moment, ça va être à l'autre joueur de jouer. Et lui aussi va avoir son premier personnage, et va agir, et il va jouer, et il va rencontrer, en gros, l'autre personnage il va rejouer la partie où il va rencontrer l'autre joueur, donc il va peut-être lui tirer dessus, il va peut-être poser un piège, etc. Et au bout d'un moment, on va revenir au premier joueur, qui lui aussi va revenir avec un nouveau personnage qui aura peut-être une arme différente et qui va aussi recommencer le jeu à zéro, sauf que les personnages des autres joueurs vont être rejoués en même temps, donc il va s'ajouter et il y aura de plus en plus de personnages d'action. Donc le deuxième personnage du premier joueur va peut-être tirer au lieu soit aider son copain ou ramasser le drapeau s'il est tombé, soit tirer sur le joueur qui a tiré sur son premier personnage. Et puis c'est au tour du deuxième joueur qui va jouer sans le personnage, et je sais pas combien ils ont de personnages comme ça, donc c'est très spécial à expliquer, c'est
pour être sûr de bien comprendre. Si j'ai fait une action avec mon premier personnage, il se peut très bien que cette action soit complètement changée par ce que vient de faire l'autre.
Elle sera interrompue, oui, exactement. Ce qui fait que tu vas commencer à réfléchir. Alors, je vais faire ça, mais avec mon troisième personnage, je vais lancer une grenade à tel endroit, ce qui fait que le premier personnage ne va pas pouvoir venir. Donc, il faut prévoir. Et donc, c'est très spécial aussi. C'est compliqué à expliquer, surtout à la radio. Donc, c'est un jeu à suivre, Lemnis Gate. C'est original. C'est très original comme gameplay. Une espèce de jeu désynchronisé comme ça, où on joue la partie. On revient un petit peu dans le temps, si tu veux. Et il y aura même un mode où tu peux jouer à plusieurs par camp. Et donc, tu pourras t'aider. Donc, deux joueurs vont jouer en même temps. Donc, il faut aussi que les deux joueurs, tu vas pouvoir prévoir les actions des autres et anticiper et t'adapter. Vraiment, c'est très, 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 très original.
Moi, rien que pour faire un Capture the Flag, je signe. Ça manque. Allez, on va s'écouter encore un peu de musique. On était dans ces chansons qui ont été malheureusement plagiées, honteusement, hein, on n'aime pas trop les plagiats. Alors, moi je vous propose d'écouter un petit morceau qui, alors même s'il n'est plus très récent et connu de tous, je vous parle de Mark Ronson, qui avait fait un feat avec Bruno Mars. Alors vous dites, mais... c'est tout. Déjà, ils étaient deux, donc forcément, ils ont essayé de faire une composition originale. Et ben, il semblerait que ça a été un peu plagié. On va s'écouter donc la version qu'on pourrait appeler ça originale, c'est The Gap Band avec Oops Upside Your Head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.
I'm back at you again.
Upside your head.
Radio station is WGAP.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Say it loud.
Say
bigger the headache. The bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Say
it loud.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus dans l'émission Heureusement en France. C'était The Gap Band avec I Don't Believe You Want to Get Up and Dance. Entre parenthèses, oups, upside your head. Voilà, bon, ça sonnait un peu comme la chanson de Mark Ronson, vous l'avez bien remarqué, pour ce thème de back-to-back sur le plagiat. Alors, on a parlé juste avant de jeux un peu innovants qui vont sortir.
Et comme par hasard, c'est des développeurs indépendants qui ont des bonnes idées.
On rappelle donc Lemnis Gate, le Capture the Flag, un peu original, un peu comme si vous programmiez, ça me fait penser au jeu de programmation de robots où après vous dites c'est merde, ça. Mes actions que j'ai faites,
et ça ou le jeu plus. De voiture où d'abord ton premier niveau, c'est la voiture doit aller de point A au point B, et après le deuxième niveau, c'est une autre voiture qui doit aller au point C au point D, mais tout en gardant le premier niveau actif, ouais. Et ça se répète comme ça. Et en fait, c'est un casse-tête qui vient de jeux sur mobile. Ouais.
Et le deuxième, Dice Legacy, un jeu de gestion où vous allez construire votre ville et le tout avec des dés et des graphismes assez sympathiques. Donc deux jeux qu'on attend pour septembre. Et on va continuer dans cette lignée, hein, puisque Rockstar nous annonce, attention,
des jeux innovants,
puisqu'ils vont remasteriser une trilogie GTA. Alors, c'est vrai que j'ai réécouté certaines émissions où je m'étonnais qu'on n'ait toujours pas eu de remake de GTA 1 qui aurait bien eu besoin d'un...
La version 2D.
La version 2D, oui.
Le 1, le 2 et le London. C'est vrai. Mais ils sont tellement parfaits.
Avec la technologie des mobiles. Alors, ils sont parfaits. Est-ce que tu te souviens un peu du gameplay du premier ?
Ben oui, bien sûr.
Parce que c'était différent à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, où quand tu vas à gauche, tu vas à gauche.
Ah,
là,
oui.
Là, tu devais appuyer pour ton perso tourner.
C'était
et tu décides...
un gameplay un peu différent, mais une fois que tu l'avais en main, ça allait. Quoi.
Voilà, c'est ça. Mais ça prenait un certain temps d'adaptation, et c'est vrai que si vous voulez rejouer maintenant, voilà, ça perturbe un peu. Alors, ici, non, ce n'est pas le London ni le GTA 1, c'est GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Qui vont avoir droit à leur petit remake.
Qui sont des très bons jeux, enfin qui étaient des très bons jeux, qui sont toujours sympas à jouer, hein, mais pff, enfin bon. Enfin, des remakes, des adaptations console, je veux dire, parce que ces jeux-là n'étaient pas forcément sortis sur console, ils étaient sortis bien sûr sur PC à l'époque, mais... Et depuis, ils sont même sortis sur mobile, parce que GTA 3 et compagnie, on pouvait jouer sur les Android et iPhone, ça tournait même mieux que sur les anciens PC, pour dire le niveau. Mais là, c'est un pack qui est prévu pour sortir sur les nouvelles consoles, en attendant le GTA 5 éventuellement.
Alors c'est ça, le GTA 5 est annoncé pour le 11 novembre. Alors GTA 5,
sur les
dates
dernières,
ça date quand même. Hein, Rockstar, depuis, ouais. Avait quand même fait Red Dead Redemption, qui était graphiquement un peu plus sympathique. Ça n'empêche pas de rejouer à GTA V, qui avait quand même quelques petites choses sympathiques. Alors moi, je pense qu'ils se dépêchent de travailler sur une trilogie, puisqu'il y a ce bundle qui s'appelle 5M, qui permet notamment aux gens de faire du GTA RP, de faire du roleplay dans le GTA. Et eux avaient commencé justement à utiliser le moteur du jeu pour refaire ces anciennes trilogies, telles que GTA 3.
Ils se dépêchent de le faire officiellement avant qu'il y ait des adaptations non officielles de leur vieux jeu, c'est ça ?
Effectivement, pour pas que l'argent ne disparaisse dans la nature.
Donc là, effectivement, les jeux seront jouables. Apparemment, hein, parce que c'est pas encore officiellement confirmé, sur PS5, Xbox, les dernières séries, et Switch.
Ça reste toujours une grosse déception de voir que Rockstar a un peu retourné sa veste comparé à avant, puisque avant, on n'avait que des jeux PC, et maintenant, ils sont vraiment basés, priorité sur la console, tout
ils
simplement.
Là où il y a l'argent, c'est normal, là où il y a l'argent.
Parce que ça se vend mieux. Mais peut-être que les gens achètent maintenant un peu plus de jeux vidéo, qui sait. Bon,
est-ce qu'elle sera à 60€ cette compilation ? Même si j'avais une console dernière génération, je les reprendrais pas parce que je les ai tellement essorés, ces jeux. Franchement, même sur mon téléphone, j'avais testé pour voir, c'est sympa, mais j'avais pas joué autant que sur PC à l'époque. C'est pas possible.
On promet de garder un peu le même gameplay, donc ils risquent de retravailler le graphisme depuis le moteur original, ce qui pourra sûrement déplaire.
Je vois pas, à moins de les refaire complètement, le moteur graphique, utiliser le moteur des derniers GTA pour afficher ces jeux-là, mais je vois pas l'intérêt. Il faudrait refaire tous les, même les sons, les textures, les personnages, tout. Oh, ça sera un tel boulot.
Je pense que ça sera juste un pack de textures améliorées qui vont.
Ils vont pas dépenser beaucoup d'argent. Là.
Alors, est-ce que tu vas l'installer quand même
non.
si c'est gratuit,
mais non.
offert dans
non,
dans un bundle.
Mais non.
Bon, c'est un peu comme ces remakes de Final Fantasy, quoi.
Juste récupérer les bandes originales, les bandes son des radios, c'est tout.
C'est quand même des jeux cultes qui sont refaits dernièrement, et bon, qui ne suivent pas forcément le plébiscite de tout le monde. Reynald ?
N'ayant pas joué déjà à ceux de base, je ne vais pas faire les remasteriser, pas du tout.
Bon, on parle de PC, on parle de oldies, c'est annoncé. Alors, on a beaucoup de petites consoles qui reviennent, la Sega Mini, la SNES Mini que vous allez pouvoir mettre dans votre salon. Et cette fois-ci, c'est un des meilleurs ordinateurs de notre génération. C'est l'Amiga 500 qui va revenir en version Mini. L'Amiga 500 Mini. C'est très bien trouvé comme nom. Hein.
Mmh. Avec le clavier Mini et tout, il faudrait tout petits doigts pour taper dessus.
Alors, à mon avis, il va avoir une entourloupe sur le clavier, qui à mon avis sera juste une touche, une grosse touche pour simuler toutes les autres. Ouais. Là, on va retrouver par contre la souris, hein, la souris de l'Amiga 500 qui était culte, qui était un peu brave, mais qui était culte.
Alors, on pourra juste jouer avec, tu ne pourras pas programmer ou l'utiliser pour faire tout ce que tu pouvais faire avec un Amiga. Est-ce qu'on pourra faire tourner des démos dessus ?
Alors c'est ça, c'est qu'on occulte une grande partie de ce qu'était l'Amiga 500, hein, qui était plus qu'un... Enfin, c'était pas seulement un support pour le jeu. Ici, on vous promet 25 jeux, alors tels qu'Alien Breed, Another World,
les classiques.
Battle Chess, alors, wow. c'est là que la souris va être très utile, Speedball, Chaos Engine.
Après, il parle aussi de pouvoir intégrer un clavier, parce que certains jeux ne se jouaient qu'au clavier, mais sur une prise USB externe. Mais est-ce que c'est juste le clavier du style manette avec lequel tu pourras effectivement utiliser le logiciel, où tu auras quelques touches pour te retrouver quelques lignes de code.
Est-ce qu'on aura le Workbench qui nous permettra de lancer des ADF, ADF qui sont un peu la compilation
pas officiellement, mais je suis sûr qu'il y aura des bricoleurs qui vont pouvoir trafiquer un peu ça.
Mm-hmm. Bah moi, je m'étais déjà essayé de me lancer dans l'aventure d'installer un Amiga OS. Puisque il y a quelques années, alors je parle de ça il y a 10 ans, ils avaient travaillé sur une version de l'Amiga OS, mais il fallait des chipsets assez spécifiques. Ouais, donc en gros, il fallait acheter le PC à 1 500€ et vous ne pouviez pas prendre une vieille bécane chez vous pour faire ça. Donc ça faisait un peu mal.
Ah, mais là, si tu veux, après, il y a des émulateurs quoi. Si tu as comment ça s'appelle les petits ordinateurs là ?
Les Raspberry.
Alors, un petit Raspberry, etc. Tu peux te faire ton Amiga facilement à la maison avec. Avec tout, là, le Workbench, tous les logiciels, les jeux, tout ce que tu veux.
Il y a une série d'émulateurs qui fonctionne assez bien. Après, pour les puristes qui voulaient utiliser le dernier Amiga OS, bon, on en est malheureusement loin et on en sera encore plus loin avec cette version mini qui vous permettra juste de jouer à certains jeux.
Voilà, c'est une nostalgie. Un cadeau de Noël pour un fan d'Amiga, mais c'est tout. Ouais.
Par contre, ça risque de coûter extrêmement cher, parce que déjà, c'est environ $150 aux États-Unis, mais si tu veux le faire arriver en France pour un cadeau, tu rajoutes toutes les taxes, tous les frais de douane et compagnie, ça risque de monter très vite.
Bah oui.
Mais après, si, quand tu es fan...
Le pire, c'est qu'ils auraient pu lancer ça en Kickstarter, histoire de récolter des fonds et ensuite le produire, ce qui ne sera pas le cas. Donc il va falloir effectivement débourser un peu. Alors peut-être qu'il y aura certains revendeurs qui vont surfer sur la vague. Dominique ne pense pas. Alors, allez, 160 euros, je pense, pour avoir une petite version dans votre salon.
Tu peux trouver un Amiga d'occasion pour ce prix-là.
Ah oui. Eh oui, je confirme. Alors, est-ce qu'il va fonctionner? Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de composants qui étaient dans l'Amiga sont oxydables, ce qui fait que certains ont très mal vieilli. Et maintenant, il faut toujours une prise Peritel pour pouvoir brancher l'Amiga.
Il y a des adaptateurs, sans problème.
Des adaptateurs. Encore faut-il que ça fonctionne. On va se quitter avec ce challenge back-to-back sur le plagiat. Et nous avions préparé cette émission à la base avec Pierre-Yves, qui est un des participants également de notre émission, qui nous écoute souvent également. Alors d'ailleurs, hein, si vous voulez récolter, vous n'êtes pas dans le Nord et que vous voulez écouter Radio Campus, vous avez campuslille.com, sur lequel vous pouvez également écouter nos podcasts. C'est magnifique. De l'émission Heureusement en France. Et lui était un spécialiste aussi de la grande musique. Il nous avait proposé plusieurs choix et nous sommes rapatriés ici sur une chanson...
Un morceau d'actualité, hein, c'est l'été, une chanson d'été. Un tube de l'été, comme on disait.
Ouais, de l'été, il y a longtemps. C'est la Lambada. Alors, je n'ai pas préparé la Lambada à l'écoute.
Je pense que même c'est le morceau qui a lancé la vague de tous les morceaux de l'été, puisque après, chaque année, toutes les chaînes de télé trouvaient des artistes, allaient fouiller pour trouver le fameux morceau de l'été qui allait se vendre plus et qui allait passer en boucle à chaque plage de pub. Entre chaque émission, tu l'avais. Oh, c'était horrible. Et la Lambada, oui, on l'a écouté.
Et la Lambada n'est qu'un simple plagiat du groupe Charcas avec Lorando C'est Fou.
C'est la Lambada datée de 1989 et ce morceau-là daté de 81.
C'est ça. On va s'écouter ça pour se quitter et on
se
retrouve.
Pas la Lambada. Hein,
perdu. Oh, t'écoutes, ça, c'est la Lambada. Hein, c'est, ouais. Voilà.
Il suffit de fermer les yeux, tu l'as dans la tête.
Et on se retrouve pour notre part la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Radio Campus, il est 19h.